Tout de suite, le nouveau rendez-vous du lundi. Alors, quelques pistes des programmes à venir, des invités pour cette semaine 100% énervés. Bande annonce avec, oui, Danielle Gilbert en maîtresse de cérémonie.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à Argelès-sur-Mer.
Quel calme, hein. C'est vraiment la vie rêvée ici.
Je dois dire que c'est un endroit magnifique. Nous sommes exactement sur la plage.
On demande ce qu'on fout à Paris, on mène vraiment une vie de con.
Claude est quelque part dans la foule. Est-ce que nous allons le retrouver? Ça, je l'espère en tout cas.
Liberté! Ah! Égalité!
Il faut que je vous chante pour oublier.
Le tonnerre!
Sous-marin. Propulsion nucléaire. Pas américain. Pas anglais. Sous-marin nucléaire, lanceur d'engin.
Chantrelle, vous êtes confirmé. Embarquement demain à 4h. Vous êtes l'assurance vie du pays.
Soyez à la hauteur, s'il vous plaît. Qui c'est qui veut gagner Top Chef?
Moi.
Ouais. Qui c'est qui veut venir avec moi?
Moi. Qui était sur cette photo?
Aucune idée, je l'ai choisi au hasard.
J'ai trouvé Bande Opéra, mais c'est le son de Bande Opéra qui m'a plu. Et j'ai appris par la suite que ça avait une réelle résonance.
Si j'avais dit la vérité et mis ma vraie photo sur Facebook, là, Alex m'aurait pas accepté comme ami.
C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, parce que j'étais entouré de gens qui ne vivaient pas pleinement leur vie et que ça m'exaspérait.
Je n'oublie pas le harcèlement ciblé et en meute. Je n'oublie pas les photomontages à caractère pornographique. Je n'oublie pas tout ça.
Justement.
Où courez-vous?
Je sors.
Demeurez.
À quoi faire?
Demeurez.
Je ne fuis. Ces conversations ne font que m'ennuyer.
Et oui, le son de Manu Katché derrière nous, ce sera en live jeudi. On a entendu Daniel Gilbert et Patrick Hernandez, nos invités Born to be Alive de mercredi. Lambert Wilson, ça sera pour demain avec François Ozon. Demain aussi du Top Chef, ce soir cyberharcèlement, mais tout de suite plongé en eau trouble avec Antonin Baudry et super-héros, super-sapeur avec Thomas Njijol. Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est votre énervé du soir. Nous sommes lundi 18 février et nous sommes très heureux de vous retrouver à double titre puisque tout commence dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis ensuite, 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, un super-héros, super-sapeur, c'est Thomas Njijol dans Black Snake, son nouveau film co-réalisé avec Carole Rocher. Une comédie survoltée, bourrée d'action, ambiance sexy années 70, clin d'œil à la Blaxploitation pour l'histoire d'un playboy libérateur malgré lui de son peuple opprimé en Afrique. Thomas Njijol va nous rejoindre dans quelques instants. À ses côtés, Antonin Baudry, il est déjà avec nous, il touche le fond avec Le Chant du Loup, un film d'aventure à bord d'un sous-marin nucléaire au programme Engrenage géopolitique, super production cinéma XXL pour ce premier film ambitieux. Antonin Baudry, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis rendez-vous avec vous, Soro Solo, pour l'Afrique en solo, la chronique, comme chaque lundi. Ce soir au programme,
on sera en Guinée parce que je propose d'aller découvrir un jeune qui s'appelle à l'état civil Souleymane Bangoura, et quand il est devenu artiste, il a coupé tout ça, il s'est appelé Soul Bang.
Et dans le Énervé la suite, ce soir au programme, je l'ai dit avant le générique, cyberharcèlement. Fini de rire, Christophe Bourseillet.
Bah je ris jamais, moi, vous savez, je suis toujours d'un sérieux, c'est important, Laurent, arrêtez quoi. Laurent, oui, alors bref, donc, alors ça va être plus fort que les ligues des années 30. Il y a la ligue du LOL, celle qui vous cyberharcèle. Et donc, pour parler de la ligue du LOL, il y aura Laurent Goumard, il y aura moi, et puis il y aura Jean-Baptiste Souffron, qui est avocat spécialisé dans le numérique, question numérique. Véronique Reissoult, elle s'occupe de la irréputation des gens. C'est des mots bizarres, je sais. Elle est PDG de Dentsu Consulting. Valérie Ray Robert, elle est cyber-modératrice, mais aussi féministe, victime de la Ligue du LOL et auteur du livre Une culture du viol à la française. Enfin, Jean-Paul Lepers, il est journaliste et lui, ça l'indigne, cette Ligue du LOL.
Le NRV, alors c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Double séance ce soir dans des registres très différents. Comédie pour Thomas Njijol qui va nous rejoindre. Je crois qu'il est dans l'ascenseur. Film d'aventure comme on n'en voit plus du tout ou comme on n'en a jamais vu dans le cinéma français avec vous, Antonin Baudry. C'est votre premier film avec donc un projet insensé, un film de sous-marin. Quand je dis de sous-marin, ça paraît complètement restrictif. Avec un sous-marin, avec deux sous-marins, plongé en eau trouble. Ça demande, on le suppose, un budget énorme. Déjà même pour un premier film.
Oui.
Quand on regarde ça, on se dit. Quand on belle regarde, réponse, c'est la première chose à laquelle.
Réponse.
Oui, oui, belle réponse.
Oui,
je pense qu'on va.
C'est la pureté comme ça.
On va peut-être essayer de la développer. Comment vous avez réussi à avoir un budget, je pense, assez conséquent pour un premier film, alors même qu'on sort des carcans de la comédie ou même des thrillers, même si les thrillers ont des difficultés aujourd'hui à se monter, Antonin Baudry?
Ben, moi, je crois que c'est bien que le cinéma français se fasse pas confisquer des pans entiers de cinéma par Hollywood ou par le cinéma américain. Et c'est vrai que du coup, quand je suis arrivé avec un projet qui sortait un peu des sentiers battus, il y a eu un vrai enthousiasme, en fait, sur ce projet, notamment de la part de certains producteurs, Jérôme Seydoux, Alain Attal, Hugo Seignac, et je crois que c'est ça qui a permis de lancer l'aventure. C'est cet
enthousiasme-là. Comment vous avez réussi à convaincre Jérôme Seydoux?
Ben, en lui expliquant ce que je voulais faire. En lui donnant la vision de ce que je voulais faire et, voilà, en écrivant et en montrant.
Et il a mis sur la table combien de millions?
Alors ça, faut lui demander à lui, parce que c'est, grâce à Dieu, la seule partie dont moi je ne m'occupe pas, ce qui me va très bien.
Vous vous souvenez du premier jour de tournage?
Ah oui,
parce
très bien.
C'est votre premier film.
Ouais. Très très bien, oui.
Ouais,
C'était un tournage en mer, donc c'était tout de suite assez compliqué, parce que dès qu'on tourne en mer, les choses sont complexes. Il y avait à la fois pas mal de questions logistiques et puis déjà pas mal de jeux d'acteurs aussi, et c'était une aventure assez forte, et moi j'arrêtais pas dans mon fort intérieur de me dire mais ça y est, c'est parti, j'avais du mal à y croire, et voilà, c'était lancé.
Bah, du mal à y croire quand on a le casting que vous avez, Reda Kateb, Omar Sy, Mathieu Kassovitz. Déjà, on se dit qu'il y avait des bonnes choses en main dès le départ. Tiens, il y a Thomas Njijol qui vient d'arriver, justement, qui était à Neuilly il y a encore quelques minutes, comme quoi ça roule très bien à Paris, malgré ce que l'on peut nous raconter.
Exactement.
Donc, quand vous avez un casting comme ça.
Ben, j'ai beaucoup de chance, oui. Ouais.
Jusque de la chance, j'imagine.
J'ai des acteurs qui sont capables de jouer des choses, des émotions fortes dans la retenue. Et ça, c'est quelque chose d'important en plus pour l'histoire que je voulais raconter.
Je vous présente Thomas Njijol.
Bonjour.
Antonin
Bonjour.
Baudry. Ouais. Antonin Baudry, ça vous dit quelque chose?
Oui, c'est le réalisateur du Chant du Loup.
Oui. Ouais, et si je vous dis Abel Lanzac, ça vous dit quelque chose?
Abel Lanzac, non, je ne vois pas.
Vous présentez? C'était lui, Abel Lanzac, c'était?
C'était le nom de plume sous lequel j'ai écrit une bande dessinée qui s'appelle Quai d'Orsay.
Ah, Quai d'Orsay, oui, que j'ai
Dublin.
J'ai vu l'adaptation de Bertrand Blier au cinéma. Tavernier, pardon.
De Tavernier, ouais.
Et du coup, non, je n'avais pas lu la BD, mais je connaissais.
Ouais. Et sur le film de Tavernier, vous aviez quel rôle?
J'étais co-scénariste, voilà. Et puis, parfois conseiller technique aussi, un petit peu.
Parce qu'avant, vous étiez diplomate?
Exactement, oui. J'ai travaillé dans la diplomatie pendant une quinzaine d'années.
Il était auprès de Dominique de Villepin.
Ouais, je m'occupais des gens qui essaient de maintenir la paix. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre que maintenant j'aille filmer
des gens qui sont
guerriers, mais c'est des guerriers de la paix aussi.
Ouais,
il y a des parcours.
Ah oui, ça, il y a des parcours. On va parler du vôtre dans quelques instants. Juste une question. À quel moment de votre carrière diplomatique vous étiez quand vous avez bifurqué, tout arrêté pour devenir cinéaste?
Je venais de revenir des États-Unis où j'avais passé 5 ans pour une mission de. Je dirigeais le service culturel aux États-Unis. Et en fait, ça faisait depuis toujours, hein, que je voulais faire des films. Et j'avais choisi de faire d'autres métiers et de voyager dans le monde pour comprendre le monde un peu, pour le découvrir, parce que je le connaissais pas du tout quand j'étais gamin. Et voilà. Et il y a un moment, je me suis dit, maintenant, il faut le faire. Comme ça a toujours été ma passion. C'est toujours pareil. Les passions dans la vie, soit on les réalise, soit on les réalise pas, mais ça se joue à peu près.
Retardé, mais pas oublié comme passion.
C'est ça, exactement.
Vous, le cinéma, Thomas Njijol, au départ, on sait que le parcours est passé par le One Man Show, par le Jamel Comedy Club. Le cinéma arrive à quel moment? Vous saviez dès le départ que vous passeriez un jour derrière la caméra? Troisième film pour Black Snake.
C'est ça. Non, je ne m'étais pas dit ça, mais moi, je suis toujours considéré comme un ouvrier, en fait. Donc, c'est mes envies qui prennent toujours le pas, mais pour moi, tout est faisable si on s'en donne les moyens. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, réaliser... C'était dans l'ordre des choses, mais je savais qu'à un moment donné, j'aurais cette envie, pas cette ambition forcément, mais j'aurais cette envie, il faudra s'en donner les moyens. Et voilà, aujourd'hui, ça fait déjà 3 films.
Cette fois-ci, il est co-réalisé avec Carole Rocher. Carole Rocher qu'on connaît, on l'avait adoré dans la série Braco, dans Police aussi, de May Wen.
Ouais.
J'imagine qu'au départ, on l'a rarement vu d'ailleurs dans la comédie. On la voit chez vous dans la comédie.
Non, oui, c'est pas sa zone de sécurité la comédie en fait. Mais après Carole, c'est une personne qui aime aller, travailler avec les gens, enfin qu'elle aime en fait. Elle a une relation très fusionnelle et très très entière à son travail, ce qui fait que voilà, elle se prend pas la tête en se disant je vais faire de la comédie. Elle est là parce que on a fait ce film en famille, parce que oui, je
un film en famille, oui.
Oui, oui, c'est ça. On partage. Exactement, ouais. Donc, du coup, on est au-delà de la comédie, au-delà de, comme moi, elle fait travailler sur d'autres choses sur lesquelles je travaillais, mais c'est pas du genre que j'ai envie de faire du drame, c'est que je travaille avec Carole, et puis si ça doit être du drame, bah, ça sera du drame. Si c'est de la comédie, on n'est pas dans ce genre de calcul, on y va à l'instinct et on y va en famille et avec le cœur surtout.
Alors pour l'instant, c'est du domaine de la comédie. Alors vous avez quelque chose en commun tous les deux, bah, c'est la BD, on vient d'en parler avec vous, Antonin Baudry. Mais vous aussi, il y a une dimension, on va dire, cartoon avec ce personnage, avec ce film. Ouais. Quelles sont vos références en BD? C'est quel type de...
J'avais pas regardé Quai d'Orsay en pensant à ce film Black Snake qu'on a fait, mais ce film m'avait aussi inspiré un petit peu parce que j'aimais bien certains effets que vous aviez fait sur ce film à l'époque, et puis il y en a plein d'autres après, mais moi j'aime bien les choses un peu lunaires, quoi. C'est pas forcément de la BD, le résultat donne ça, oui. mais au départ, je cite souvent, ça va même devenir être barbant pour ceux qui me suivent, mais quelqu'un comme Pierre Richard, il me parle beaucoup. D'accord, c'est un personnage tellement lunaire, et c'est vrai que mon personnage n'est pas forcément tout le temps lunaire, mais ça fait partie des personnes qui m'influencent beaucoup. Oui.
Pierre Richard des années 70.
Oui, des années 70 et peut-être moins maintenant parce qu'on le voit moins, mais effectivement pendant sa grande époque, effectivement.
Le jouet, etc.
Voilà, le jouet, le grand blond, j'en passais des meilleurs. Il a joué des personnages qui étaient vraiment charismatiques et forts, quoi. Moi, j'aime bien.
On va parler des films dans quelques instants, mais pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé des sons à chacun et c'est presque une playlist à vous deux. Ça commence par ça pour vous, Thomas Njijol. Une raison sur le choix de cette chanson et de ce chanteur, peut-être Thomas Njijol. Des sons qui vous ont marqué.
Déjà la sonorité déjà des années 80, elle est particulière. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont souri devant en écoutant ces quelques notes. Parce que les années 80, il y avait des arrangements qui étaient très beaux, particuliers déjà. Moi, j'ai grandi dans cette époque. Et puis après, Eddie Mitchell, je vais pas le présenter, quoi, on sait qui c'est. Et ça me parle parce que c'est à une période je m'ouvrais beaucoup, j'écrivais beaucoup et il faisait partie des chanteurs que j'écoutais beaucoup en français, lui et Renaud. Et cette chanson m'a toujours touché particulièrement parce que c'est, comme je vous dis, une époque. Et puis il parlait aussi de du fait d'avoir un enfant, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que moi personnellement, même si j'étais très jeune à l'époque, j'ai eu très jeune le besoin, l'envie d'avoir un enfant en fait. Donc aujourd'hui, c'est chose faite.
C'est chose faite. Tout est en train de se réaliser, en fait, Thomas Njijol.
Oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de rêves, en fait. Et je dirais pas non plus que j'ai des objectifs, mais j'ai des choses que je vois et que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que j'ai des idéaux très simples, en fait. J'ai pas des rêves de grandeur, d'aller m'acheter une Rolls ou je ne sais quoi. Je m'en fous un peu. Je suis assez terre à terre, mais j'ai des choses très réalisables en tête que j'ai envie de faire et je m'en donne les moyens.
Alors vous devrez faire de la radio parce que vous avez une transition parfaite. Vous venez de le citer.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside.
Ça, c'est votre choix, Antonin Baudry. Renaud, l'homme qui prend la mer. Bon, bien sûr, quand on va parler du film, on se doute bien qu'il y a un lien, mais au-delà.
En fait, avec mon premier argent de poche, quand j'étais gamin, je me suis acheté une cassette de Renault, celle-là. Et ça m'a beaucoup marqué, j'ai vécu avec, et j'ai vu toujours avec. Et c'est vrai que vous me demandiez mon premier jour de tournage, j'avais cette chanson-là dans la tête.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais.
Vous êtes allé le voir en concert depuis ?
Plein de fois, ouais.
Plein de fois ?
Ouais.
Et c'était bien ? Les derniers aussi ?
Non, les derniers, j'ai pas pu parce que moi j'étais en train de faire mon film, ça m'a pris 3 ans de faire mon film, donc je faisais que ça. Mais moi c'est un chanteur que j'adore. Ça m'a égayé et approfondi mon enfance.
Vous avez tenté de le rencontrer ?
Non, je l'ai croisé de temps en temps dans la rue et tout, mais j'ai jamais osé lui parler. Donc,
Autre musique pour vous, Thomas Njijol.
I miss you, baby.
C'est vraiment les morceaux de votre vie.
Complètement.
Sur certaines radios.
Complètement.
Alors ça, ça correspond à quoi?
Ça, c'est Marvin Gaye, ouais. My Love Is Waiting, de son album Midnight Love. C'est un album qui a accompagné toute ma jeunesse. C'est un album que mon père écoutait beaucoup. Mon père, il a fait une partie de ses études à San Francisco. Il était venu avec plein de vinyles. Voilà. Mon père était aussi diplomate pour la petite histoire, mais ça, je le raconterai dans d'autres interviews, dans une autre vie.
Non, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Diplomate dans quel domaine
à l'ONU,
exactement? À l'ONU.
Ouais. Il travaillait à l'ONU. Il était pendant le génocide du Rwanda à l'ONU.
Voilà. Ah oui.
Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux pas en parler là, ça ferait très long.
Peut-être, mais on en parlera à l'occasion du film, parce que je vois quand même qu'est-ce qui peut se jouer en effet dans le cinéma que vous travaillez depuis quelques années.
Le vôtre.
Et les rôles d'ailleurs, les choses
sont venues pas par hasard, et voilà. Mais pour le coup, voilà, pour revenir à un truc plus léger,
Marvin Gaye,
bah c'est toute ma jeunesse en fait. Quand j'entends ça, moi ça me touche particulièrement. C'est un album que j'écoutais beaucoup quand je commençais à faire de la scène en loge, parce que je sais pas si ça me rappelait d'où je venais, mais ça me reconnectait à moi-même un peu. Et puis c'est surtout Marvin Gaye aussi, hein. Au-delà de ça, c'est une voix, un chanteur, une histoire particulière avec son père d'ailleurs. Parce que c'est quand même son père qui lui a enlevé la vie, qui lui a donné à enlever, on va dire. Et ouais, non, c'est quelque chose qui me parle à différents points de vue et qui m'inspire, si je puis dire.
Avec la voix que vous avez tenté de chanter?
Non, mais là,
je sais que vous apparaissez en featuring sur quelques chansons.
Oui,
mais...
oui, non, c'est plus de l'amusement. Mais non, j'ai jamais. Je fais des tentatives très courtes, comme tous les jeunes qui ont grandi un peu à mon époque dans le rap, parce que c'était le mouvement et qu'il fallait bien tester un truc. Mais j'étais trop dans la déconne à l'époque. Moi, je me prenais pas assez au sérieux pour pouvoir rapper de problèmes de la société, alors que ma vraie problématique, c'était d'acheter des croissants aux amandes.
C'est un petit peu déconnecté autres
j'avais
ambitions.
J'avais pas trop la rage ni la haine.
Un bruit de cinéma pour vous, Antonin Baudry. On resitue l'action, Antonin Baudry.
Oui, bah comme toute ma génération, ou en tout cas beaucoup de gens, j'ai été très très marqué par le sabre laser, ouais. Et par Star Wars. C'était un nouveau type de film. Ça, c'est un film qui a à la fois fait beaucoup de bien et beaucoup de mal au cinéma, je pense. Et c'est un son qu'on peut pas oublier. Beaucoup de bien parce que c'est formidable, que ça a amené vers les salles énormément de gens, ouais. Que ça a développé l'imaginaire d'une génération. Du mal, pas à cause du film lui-même, mais parce que après beaucoup de gens se sont normés. Ça a normé un petit peu le
blockbuster.
Ouais, ça a normé un peu le cinéma, mais c'est pas de la faute du film. C'est pas du tout de la faute du film, c'est de la faute de tous ceux qui ont essayé de l'imiter. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi bon. Moi, j'ai toujours été très sensible au son au cinéma.
Ah bah.
Il y a eu une recherche sonore géniale sur ce son et c'est quelque chose que j'avais présent à l'esprit aussi en faisant mon film, parce que depuis le début, je voulais en faire un film sonore.
Un film sur le son, une guerre acoustique. On va en parler dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose d'écouter le duo afro-punk Tchégué, que vous connaissez bien, Thomas Ndijol.
Oui, complètement.
C'est sur la BO de votre film.
Absolument.
Naléli. Naléli. Naléli, naméli. Pongi ezunga, naléli, naméli. Naléli, naméli. Naléli, naméli. Naleli nameli pongi ezunga naleli nameli naleli nameli naleli nameli osala nini benga mbila mbila 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 soko 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 kutana jabali sisuzela moke soko 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 kutana Suzela moke Njana yoto kutana te Kamae loko
biso. Yakoye biso bango pouvoir yakuzonga pona biso. Yakoye biso bango pouvoir yakuzonga pona biso. Yakoye biso bango pouvoir yakuzonga pona biso.
Osala.
Yebisa.
Osala.
Yebisa.
Yebisa.
Osala.
Yebisa.
Yebisa.
Osala.
Yebisa.
Yebisa.
Osala.
Yebisa.
Osala.
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 Nouveau rendez-vous, Laurent Goumard, sur France Inter.
Les gars,
ouais.
Si vous passez à Paris, il faut venir à la maison, hein. Vous habitez sur les Champs-Élysées.
Hey, là où il y a l'Arc de Triomphe.
Mais toi, tu joues, toi. C'est là où j'habite, dans l'Arc de Triomphe, là. En haut, là, au cinquième étage, j'ai un appartement 500 mètres carrés avec vue sur le Mont Blanc.
Ah ouais. Mais toi, tu vis, mon frère.
Il a la tchatche, Clotaire Sangala, ce playboy parisien qui va se découvrir un destin hors norme. Et c'est vous, Thomas Njijol, qui jouez ce héros au grand pouvoir, mais zéro responsabilité dans ce troisième film. Black Snake, une comédie politique, oui, politique aussi. L'histoire de Clotaire Sangala, stylé, un branleur qui vit à Paris et qui retourne en Afrique, dans son pays natal, pour revoir son grand-père. Signe particulier, ce grand-père est chinois, Maître Esmar Arcio, un grand-père qui va être un grand-père qui va être assassiné par des milices au service d'une dictature qui veut récupérer les terres des paysans. Clotaire est dévasté et comme un malheur n'arrive jamais seul, un serpent jaune le mord et là, il se découvre un nouvel homme. Ses forces sont décuplées. Vous connaissiez Spider-Man, vive Black Snake, le super-héros. Un homme qui va faire face à l'histoire de son pays et à son propre roman familial. Bande-annonce.
Comment va, papy?
Tu es un bon entraîneur à Paris?
Pas quotidiennement, mais...
Aïe, aïe, aïe!
C'est un bandit local qui sème la terreur pour le compte de Mielis, appelé Force Apocalypse.
C'est ça le pouvoir, et moi je l'ai!
Papy!
Je crois en toi.
C'est vraiment dommage!
Tu es l'héritier des pouvoirs du serpent jaune.
La puissance, mon ami, la puissance!
Ta force ne connaîtra plus de limites. Qui es-tu ?
Je suis Black Snake !
C'est quoi Black Snake ?
Ça signifie le serpent de couleur noire. Ah. Parce que vous voyez en anglais l'adjectif...
Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue, moi.
La puissance.
Quand l'ennemi est encore là, Black Snake se doit de continuer.
La puissance. La puissance. La puissance.
Il y avait déjà eu un super-héros à vos débuts, Thomas Njijol.
Super-héros sur scène, c'est ouais. Ça, une référence du moins. Ouais, je parlais de dans un de mes premiers sketchs, en tout cas à la télé, ou du rapport de Superman à l'Afrique, qui était inexistant pour le coup, vu qu'on l'a jamais vu une seule fois descendre sur le continent africain. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais on peut imaginer créer à la suite de sketch une sorte de Superman africain, en tout cas qui était né là-bas.
Donc ça veut dire que l'idée était déjà quelque chose.
C'est pas l'idée du film, le personnage a été créé après avec un éco-auteur, mais c'est vrai que ça tournait un petit peu autour de ma tête. Mais c'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis petit. En fait, moi, je vais au Cameroun depuis que j'ai 5 ans. Et je lisais un peu ces choses de Marvel et tout. Et c'est vrai que c'était un questionnement que j'avais eu. Comme ça, en fait, naïvement, en tant que gamin, à me dire, mais c'est vrai que je vais dans une partie du monde très souvent et elle est toujours ignorée dans ces ouvrages-là. Donc, c'est vrai, quelque part, ça part un peu d'un manque et d'une envie, quoi, un peu des deux.
Alors, c'est un film drôle qui tire à bout portant sur la France-Afrique, magouille de l'État français pour mettre la main sur les richesses africaines en soutenant les dictateurs. Suivez mon regard. Ouais. Naïveté des populations sur place qui se font manipuler. Il y a aussi une dénonciation politique derrière la comédie. Ça vient du fils du diplomate?
Ouais, clairement.
Je savais pas ce truc de diplomate, mais je vais pas vous lâcher là-dessus.
Non, mais vous pouvez. Oui, la comédie, de toute manière, a toujours été un vecteur assez fort à ce niveau-là pour dénoncer ou en tout cas pointer du doigt les anomalies de nos sociétés. Donc, là, bien que l'intention première était quand même de s'amuser, c'était de créer un personnage.
C'est un film super drôle, survolté.
Oui, enfin, voilà, de créer un personnage un peu loufoque. Mais c'est vrai que moi, j'aime appuyer la comédie sur quelque chose de vrai. Et puis, quoi de mieux que d'introduire, en tout cas, de présenter ce personnage à cette époque-là, quoi.
Dans les années 70.
Années 70, c'était un scénario en soi, quoi, de mettre un héros, un vengeur masqué. En pleine période France-Afrique, c'était trop beau.
Qui est-ce qui vous a raconté cette période France-Afrique ?
On me l'a pas vraiment raconté, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en étant né fin 70, via mon père qui faisait des allers-retours, via les réunions familiales avec des oncles où ils parlaient que de ça, et puis surtout en allant sur le terrain, et puis en apprenant l'histoire à l'école, tout simplement. Donc c'est pas quelque chose que j'ai appris de façon directe, mais de façon sous-jacente, explicite, par la vie en fait, comme j'ai appris l'histoire de France et même des pages plus sombres, mais c'est comme ça. Bon, c'est tous notre apprentissage par la vie, et puis après il y a la sensibilité, il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Donc voilà.
Vous avez tourné où ?
En Afrique du Sud, à Johannesburg. Ouais, pour des raisons professionnelles déjà d'une, parce que bah, là-bas ils tournent énormément de films, de publicités et tout, et puis financière aussi, parce que c'était plus avantageux entre guillemets à un certain niveau de tourner là-bas, et parce qu'un film de cet ordre-là dans un pays dont je suis originaire, donc comme l'Afrique de l'Ouest, au Cameroun ou autre. Et aurait été un peu compliqué à faire.
Vous y avez pensé quand même, au départ ?
Oui, mais bon, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai écrit une petite partie, enfin réalisé, pardon, une petite partie de mon film Fast Life, le précédent, au Cameroun. J'ai eu connaissance de la réalité de la fiction là-bas, et je pense que c'était pas le bon moment pour tourner ce film, La Black Snake, au Cameroun. Mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc, on verra par le futur... ce qu'il y a de possible de faire, parce que j'ai
en fait, vous avez envie véritablement de tourner là-bas, enfin de faire quelque chose là-bas.
J'ai toujours envie, et comme j'ai envie de tourner en France, j'ai envie de faire des choses ici. En fait, je pense que la question de la géographie, elle est abstraite aujourd'hui pour nous, et je parle même pas pour nous en tant que noirs, je parle générationnellement, je sais pas si tu suis un peu ma pensée, mais en fait, on est ouvert à tellement de choses, on voit tellement de choses que là, se limiter à notre pays ou voir notre continent aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose, quoi.
Antonin Baudry ?
Bah oui, je suis d'accord, oui, en tout cas, en plus on voit des images de partout, donc on a plein d'univers en tête, ça joue pas forcément beaucoup. Après, il y a des trucs qui sont plus ancrés que d'autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aucun gamin ne vit dans un monde aussi restreint que moi, celui dans lequel je vivais quand j'étais gamin, ou peut-être toi aussi.
Exactement, je pense qu'après, c'est une histoire de sensibilité, c'est tout. C'est là, les choses qui touchent plus ici ou là, mais aujourd'hui, voilà quoi, tourner à Paris, périph...
C'est quand même pas la même chose que de tourner en Afrique du Sud.
Oui, 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 ouais, mais ce qui est vachement bien aussi, hein, mais en tout cas, le champ des possibles est absolu.
Dans le film, on dresse aussi un portrait de la culture africaine, d'une certaine culture africaine, parce qu'il y en a plein.
Ouais,
notamment les sapeurs, c'est un monde que vous connaissez ?
Non, je ne le connais pas plus que ça, mais c'est quelque chose qui me fascine.
Ah ouais.
Ça me fascine dans le sens de la... Comment dirais-je, de déjà ce que ça procure visuellement, quelque chose de très beau. Moi, je suis admiratif. Et puis l'état d'esprit, en fait, j'adore... les sociétés, les sociétés dans la société,
oui,
c'est-à-dire une société
code.
Exactement qui ont leur code, qui ont leur façon de vivre, qui ont leur façon de voir, leur façon de, et quelque part c'est pas en marge, mais c'est ça, il y a un respect à avoir en fait, c'est-à-dire que nous toujours quand on regarde les choses avec distance, on peut avoir pas forcément un regard moqueur, mais un regard un peu intrigué, mais c'est ce qui est propre à ces sapeurs comme à d'autres communautés, c'est quelque part ça, en fait au final ça attise, ça crée du respect, quoi. Moi en m'intéressant pour de vrai à ces mouvements là à la fin tu dis bah je vous respecte parce que vous prenez la vie de cette façon, vous avez vos codes, vous les respectez, et puis surtout vous faites du mal à personne, quoi.
Qu'est-ce que vous avez appris justement de leur communauté, de leur code?
C'est des gens qui jouissent de la vie, quoi, qui jouissent de la vie à leur façon et qui ont leur petit groupe, enfin leur petit, c'est pas un petit groupe d'ailleurs, c'est un groupe assez conséquent, et c'est quelque chose qui est fort, quoi, ils vivent pour quelque chose qu'on respecte ou pas, qu'on adhère ou pas, c'est pas leur problème, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Voilà, ils ont créé là quelque chose, et ça c'est fort, parce que la philosophie, voilà, spirituellement sur le continent africain, ça rapporte beaucoup de joie. Et je trouve que ça, malgré tout, c'est quelque chose qu'il faut saluer et auquel il faut rendre hommage.
Vous avez assisté à des défilés, à des cérémonies, à des, intronisations?
Non, j'ai pas eu ce plaisir-là de voir ça de mes yeux, mais je peux conseiller, je sais pas s'il est encore en ligne, mais il y a Ariel Wiesman
qui avait fait un documentaire
que j'avais vu, je sais plus, il y a quelques années, pas si lointaine, et qui parlait un peu des différents mouvements de dandy, parce que les sapeurs, c'est un mouvement qui est congolais et qui est pas dans tout, sur toute l'Afrique, et c'est le dandisme en fait qui est partout dans le monde. Et vraiment, je vous conseille de voir ce documentaire d'Ariel Wiesman.
Un monde que vous connaissez, Antonin Baudry?
Alors, le monde des sapeurs, non.
Non.
Pas du tout.
Mais non, quand même.
D'ailleurs, j'ai hâte de le découvrir.
Dans le film, il y a ça, puis il y a aussi tout le rôle des femmes. On va revenir dans quelques instants sur votre cinéma, Antonin Baudry. Black Snake, sorti en salle mercredi prochain, puis on n'a même pas eu le temps de parler de Selon Thomas, qui se passe sur Canal+. C'est le grand retour sur Canal+, ça se passe bien, ça va?
Oui, ça se passe très bien. On a fait notre saison 1 de Selon Thomas, et puis là, on discute de la saison 2, mais en fait, on a un rapport très simple et sain avec Canal, dans le sens où je fais l'émission quand je veux. Et quand je suis prêt, donc c'est pas quelque chose.
Il n'y a pas une commande, il n'y a pas une deadline.
Non. Et puis de toute manière, elle peut pas se créer comme ça. Moi, je parle de un peu de la société. Je parle de certaines choses, et c'est pas en fait une série de sketchs qui sont totalement dans le vide.
Ah ben non, justement, aucune autocensure de votre part.
Non, mais du coup, j'ai besoin de vivre. En fait, je peux pas les créer comme ça en me disant allez, c'est reparti, j'écris. En fait, j'ai besoin de voir, de vivre, et à un moment donné. Quand je trouve ou je vois suffisamment de choses qui me font rire et qui se passe suffisamment d'aberrations qui peuvent perdurer dans le temps, comme c'est pas une revue de presse, et ben je me dis ben c'est le bon moment. Mais là, je capitalise encore beaucoup de choses. Voilà.
Pour la saison 3.
Exactement.
Survolant livraison, gilet blanc d'achète sans cachet dans casier d'adolescent. Cardigan Louis Vuitton pour 2 francs, montant de fabrication. Prisonnier isolé, réveillé par biais de chiffonnier. Salarié sous-payé, avarié, soudoyé, suicidé. Lampadaire sans lumière, éclair, STF et bandoulière. Antipode de la mort, dandicose, peu clamant visionnaire. Tatouage insensé, cafouillage de pensée tout l'été. Dénudé, pendu, blé, trémoussé sous l'effet de la scène. Policier étranger, dérangé pour ce qu'il est pour foncer. Odyssée, mystifié, colisé, réparé, offensé. Dums. Qui sont-ils quand ils n'ont jamais vraiment été? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. De la gériatrie à la maternité, des félicités au RIP. On fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter, les 2 barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain pour un semblant d'humanité. Charnel sans les générosités, pour hypnotiser les gens. Pendant que mendiants immigrés se mettent à copiner des clans. Se mettent à cotiser des camps, où sont entassés des gens. Je crois que le plus intelligent serait d'avouer qu'on est con. Serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton. Voir ce que nous laisse le temps, croire en nous mais sans le en. Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Humain, je suis plus trop humain. Mais plus que humain quand je vois l'humain. Puis soudain plus rien. Y'a plus trop d'humains que des terriens. C'est un grand terrain. Qui sème, qui se tue, qui saigne pour rien. Comme un chérubin. La seule voix que je suivrai, c'est celle de mes cordes vocales. Quand on meurt, on ne fait pas appel. La vie a ses failles. Facture, courrier et rappel. Pousse à faire du sale. Ils ne se veulent pas du bien. L'humain se fait du mal. Pour être ensemble devant nous vivre séparément. Je crois que dans l'ensemble, c'est plus facile quand on se ment. Y'a des gens comme moi qui ne savent plus trop ce qu'ils sont. Qui se posent la question. Mais qui suis-je vraiment? Quand je ne suis plus vraiment. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être.
Les humains vus par Damso, victoire de l'album rap pour Lithopédion.
Rendez-vous.
On est au niveau d'alerte 6. Grand champ. Vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Vous prenez l'effroyable.
Gardez-vous.
Dorsey, vous passez commandant du Titane. Pour commencer, vous escorterez l'effroyable jusqu'à ce qu'il soit dilué dans la mer gelée.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Ce bruit qu'on entend, c'est ça le chant du loup, Antonin Baudry ?
Oui, c'est ça le chant du loup, ouais. C'est ce qu'on entend quand un sonar ennemi vous a détecté, on entend comme une sirène au loin, qui est le bruit de ce sonar, et on sait quand on entend ça qu'il est déjà trop tard en gros.
Vous savez pourquoi ils ont appelé ça le chant du loup ?
Alors en fait, tout le monde l'appelle un peu à sa manière. Hein. J'ai entendu ça quand j'étais à bord une fois, quelqu'un qui a dit « Oula, c'est le chant du loup ». Mais c'était une expression comme ça qui m'a plu, qui m'a touché, parce qu'il y avait cette dimension à la fois de danger et de sirène, que je trouvais assez belle.
Le Chant du Loup, c'est votre premier film. Vous avez choisi l'aventure, les pièges géopolitiques en eau trouble, les codes du thriller aussi. Le Chant du Loup, c'est un presque huis clos dans un, puis dans deux sous-marins. Vous-même, je crois que vous avez fait l'expérience. Quel type de sous-marin ?
Oui, moi j'ai plongé dans les deux types de sous-marins. Il y a des petits sous-marins qui sont un peu les héritiers des flibustiers, des pirates, qui sont les sous-marins nucléaires d'attaque. Et puis il y a des gros sous-marins qui, eux, portent des missiles nucléaires et qui sont le dernier ressort, on va dire. Oui, les deux sont très différents. Ouais.
Vous avez tourné dans les deux ?
Ouais, on a tourné dans les deux, on a tourné beaucoup de scènes dans chacun des deux. On a tourné aussi en studio, on a
reconstitution, parce que je me disais quand même, c'est dingue.
Uniquement les salles des commandes. Et à l'échelle 1, c'est-à-dire exactement la taille des vrais, pour voilà, c'était une contrainte, hein, bien sûr, pour les acteurs, pour moi, pour toute mon équipe, pour tout ce qui se passe derrière la caméra. Mais ça apporte aussi une certaine vérité. Moi, je crois beaucoup à l'authenticité, donc en fait, j'ai beaucoup observé sur place, et j'ai beaucoup voulu restituer même le langage dans lequel se parlent les sous-marins.
C'est presque comme dans Urgence, c'est-à-dire qu'au départ, on ne comprend absolument pas véritablement ce dont il est question, puisqu'il y a plein de termes techniques. Mais comme dans Urgence, au bout d'un moment, sans capter véritablement ce à quoi ils font référence, on comprend quand même l'histoire.
Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conflits intérieurs. Ouais. On vit de plus en plus dans un monde où les gens vous expliquent que les machines sont meilleures que nous. Et là, tout d'un coup, avec l'oreille d'or, j'avais quelqu'un dont l'organe, l'oreille, est plus performante qu'une machine. Et puis, on voit de plus en plus de scientifiques qui essaient de nous persuader qu'en fait, dans le fond, on est des algorithmes. Ce à quoi je crois pas du tout, parce que tous ces gens qui disent ça, ils oublient le conflit. Ils oublient le conflit intérieur qu'on a en nous. Et c'est un film là-dessus.
Le Chant du Loup, c'est l'histoire d'un piège géopolitique et le parcours d'un héros, un jeune sous-marinier, un surdoué de l'ouïe qui peut reconnaître tous les bruits. Alors, le film s'ouvre sur une mission qui pourrait bien mal tourner. Il faut récupérer des nageurs de combat en Méditerranée, mais au même moment, l'oreille d'or, donc dans son sous-marin, vient d'intercepter un bruit bizarre, un chant du loup qui annonce le danger. Bizarre parce que ce bruit pourrait bien être celui d'un sous-marin russe qui, a priori, n'est plus en service. Au programme dissuasion nucléaire, ambiance de guerre, oui, mais il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les Russes, est-ce que c'est sûr ? La guerre sera acoustique ou ne sera pas, bande annonce.
C'est quoi, la guerre acoustique ? C'est dangereux ?
Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps.
Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales.
Je sais.
Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non ?
Le Chant du Loup. Elle nous a détecté, second.
Poste de combat, tu diffuses.
On doit récupérer les nageurs, c'est la mission.
Trois splash au sonar.
Je trouve ce que c'est.
Une attaque majeure est en cours sur le sol français.
Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte.
Nous avons été pris au piège.
J'ai passé ma vie à apprendre à des gamins à faire confiance à un système. Attends, il faudrait que je neutralise ces gamins.
C'est nos frères en face, là.
C'est pas nos frères, ce sont des marins sous ordre de tir.
On a plus le choix.
Alors, il y a plein de héros, des hommes, dans ces deux sous-marins pour votre film, Antonin Baudry, avec focus sur le jeune sous-marinier, qui est une oreille d'or. Vous en avez rencontré ?
Alors oui, j'en ai rencontré plusieurs, et c'est complètement fascinant comme métier, parce que c'est très méconnu. D'abord, leur nombre est secret défense, on n'a pas le droit de le dire, sinon on va en prison. Ouais. Mais surtout, non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire, je sais pas si ça vous est déjà...
Il y a une école, hein, ouais. Thomas Njijol.
Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand quelqu'un marche dans le couloir, de savoir qui c'est. Juste parce que vous reconnaissez sa signature acoustique, son pas. Ou quand quelqu'un respire, tout d'un coup, vous savez qui c'est. Ben, les oreilles d'or, c'est des gens qui ont ça pour tout.
Pour tout, mais exactement tout.
Ouais.
Vous avez assisté à des tests d'expériences différentes ?
Bah oui, j'ai assisté à des tas d'écoutes et c'est très très compliqué de reconnaître un son, mais c'est un peu aussi comme, vous savez, des gens qui seraient capables d'écouter un concert avec plein d'instruments et d'écouter seulement le deuxième violon, en isolant, c'est-à-dire en soustrayant tous les autres sons. Et aussi d'avoir une mémoire extraordinaire des sons.
Peter Rydor, il pratique j'ai compris, dans le cadre des sous-marins, enfin dans certaines opérations, j'imagine, et fait où encore qu'ils exercent
Ils exercent dans tous les sous-marins et dans toutes les machines qui chassent des sous-marins.
D'accord.
Dans des avions, des frégates, des trucs comme ça.
D'accord.
C'est principalement là, parce qu'en fait, tout ce qui se passe sous l'eau, ça se passe que à travers les sons.
Oui, parce
que
c'est l'endroit. Il ne voit rien.
Il n'y a rien d'autre. Donc c'est l'endroit où on a le plus besoin de ses oreilles, en fait, finalement, sous l'eau.
D'accord.
Le monde de sous l'eau, c'est un monde de sons. Tout le temps.
Oui, forcément. Oui.
Et c'est fascinant, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, quand tu entends un truc, tu ne sais jamais. On a fait écouter plein, tu ne sais jamais si c'est un organique, si c'est un animal. Si c'est une machine, tout est ambigu.
D'accord.
Tous ces sons sont ambigus. Même les trucs dangereux, en fait, c'est un peu comme une sirène qui t'appelle, tu sais jamais trop. Et c'est cette ambiguïté-là que je trouve hyper belle. Et d'avoir des types qui sont capables de
Excusez-moi,
c'est fait exprès.
C'est inné ou c'est des choses qui travaillent?
Il y a un don inné, puis après, il y a un entraînement.
D'accord.
Ouais, c'est les deux.
Ok.
Ah, oui, c'est forcément des militaires, hein.
Mais c'est un truc un peu poétique en même temps.
Ouais.
Regarde, c'est la fonction même de la poésie, c'est de nommer les choses. De l'inconnu, de mettre des mots dessus. Et ils ont exactement cette fonction dans un sous-marin. Ils sont même obligés d'inventer des mots pour qualifier les sons, pour pouvoir s'en parler entre eux.
D'accord.
Dire, ce son, il est un peu en froissement d'étoffe, il est sale de noix, il est sourd, c'est un bruit mouillé. Et c'est marrant, c'est des gens qui créent un langage. Donc en fait, au sein de ce truc militaire, en fait, il y a des poètes qui sont là, qui ignorent eux-mêmes d'ailleurs qu'ils sont poètes en général, mais qui ont exactement cette fonction-là.
Vous avez travaillé avec des consultants sur ce film qui parle de dissuasion nucléaire, qui parle de guerre géopolitique.
J'ai interviewé beaucoup de monde pour essayer de comprendre comment ça marche et puis essayer de raconter des choses qui soient crédibles, qui puissent effectivement arriver ou qui puissent être arrivées hier sans qu'on le sache. Et puis sur le plateau, après pour des questions plus aussi de montrer quelque chose d'authentique et de réel, j'ai accueilli plein de volontaires figurants qui étaient eux-mêmes des sous-mariniers. Et qui avait la gestuelle, la chorégraphie un peu, parce que c'est une chorégraphie en fait, 60 hommes
dans
bloqués les uns sur les autres dans un espace tout petit pendant 5 semaines. À la fin, ça crée vraiment de la chorégraphie. C'est-à-dire que c'est pas des déplacements individuels, mais c'est un truc vraiment très très étrange. Là, c'est beau d'ailleurs, hein, comme une famille, quoi.
Et vous avez eu quelqu'un qui a pu justement chorégraphier ces déplacements, j'imagine?
Bah oui, moi.
Ah.
Bah, c'est le rôle de la mise en scène. J'avais fait une longue préparation quand même avec les acteurs. J'avais aussi une amie qui est chorégraphe qui était venue pour leur faire des exercices, plus de connaissances entre eux, de les faire bouger ensemble, de les faire se connaître tactilement.
Vous avez fait de la danse contemporaine avec Omar Sy, Mathieu Kassovitz et compagnie?
Ouais, souvent les acteurs qui arrivent sur le plateau, ils se connaissent pas en fait. Parce que les règles du cinéma veulent que tout est toujours à l'urgence. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de s'appréhender, de se toucher. Or, dans un sous-marin, les gens se touchent en permanence. Parce qu'il n'y a pas de place. Donc moi, si je veux passer de là à là, je suis obligé de savoir où est ton omoplate pour pouvoir me faufiler sans te gêner dans ton travail, mais quand même te faire sentir qu'il faut que je passe. Et ça, c'est des trucs qu'on n'improvise pas.
Thomas Ndigel, je vous vois intéressé par le sujet.
Ouais. Bah ouais, c'est intéressant, carrément. Bah oui, de voir un peu la façon justement dont, au-delà de la réalisation du film, comment il a appréhendé le jeu de ses comédiens, et puis voilà, ce chorégraphe et tout, c'est bien, on est un peu dans l'intimité.
Dans le faire.
Dans le faire,
dans le faire.
C'est vachement intéressant.
C'est un film d'hommes, Mathieu Kassovitz, François Civil, Reda Kateb, Omar Sy à bord d'un sous-marin, puis de deux sous-marins. Mais ça m'a dérouté, il y a aussi une histoire d'amour, c'est-à-dire votre Orider, qui est aussi appelé Chaussette. Ce jeune homme, donc, qui est capable d'identifier n'importe quel bruit, ce jeune homme va rencontrer une jeune femme, libraire. Il fallait faire entrer une femme dans le film. Était-ce vraiment nécessaire, en fait?
Bah oui, pour moi, c'est vraiment important, parce que d'abord, cette femme, qui s'appelle Diane, elle est la seule, c'est le seul personnage du film qui soit pas une sous-marinière, qui soit pas une militaire, qui soit pas une française non plus, et qui soit comme nous, c'est-à-dire pas au courant de ce qui se passe,
d'accord.
Sous l'eau, dans tout ça.
Donc elle a presque le rôle du spectateur.
Elle
d'accord.
est nous, et en fait, et le fait que cette relation qui se crée si forte et si vite avec l'oreille d'or, le fait qu'elle modifie complètement sa trajectoire, parce que c'est elle qui la met sur la piste pour résoudre son énigme, puis c'est elle qui l'en détourne en fait sans le savoir. Moi, c'est quelque chose que je trouve très vrai dans la vie, quand vous rencontrez quelqu'un, ça a des conséquences sur votre destin que vous maîtrisez pas, que vous mesurez pas, qui sont pas écrites. Et oui, ça fait partie pour moi de cet univers-là. On est dans un monde à la fois déterministe, mais à la fois complètement hors déterminisme.
Les acteurs ont fait des séjours en situation?
Bien sûr. Ils ont tous embarqué un à un avec moi dans un sous-marin pendant à peu près un jour et demi.
Aucun claustrophobe?
Bah moi j'ai jamais ressenti de claustrophobie à bord, eux non plus. Je crois pas qu'en fait bizarrement on ressente de claustrophobie à bord parce que comme c'est tout petit mais qu'il y a plein
de... Non, on ressent
plein
de la claustrophobie quand on est spectateur.
Bah peut-être, alors tant mieux. Mais ou tant pis, mais quand on est dans un espace dans lequel qui est comme un univers en microcosme. En fait, on est à la découverte de cet univers. On n'est pas comme bloqué dans une pièce dont on voudrait sortir. S'il y a pas de porte ou de fenêtre, on n'est pas. Donc je sais pas. Non, c'est pas ça qu'on ressent en fait. Il y a une forme de chaleur dans le sous-marin. Il y a des valeurs qui sont. C'est un des rares endroits du monde en fait de la société
où les gens doivent être vrais.
Ouais, où les gens portent pas de masque et où leurs relations sont pas régies du tout par les valeurs marchandes, le capitalisme. C'est d'autres valeurs qui sont en place. Il y a un truc où on sait que s'il y en a un qui foire, il y en a 70 qui se retrouvent sous l'eau pour toujours. Donc il y a un truc de solidarité, d'entraide et de compétence qui prend le pas sur tout le reste et qui est assez intense.
Dernière question, Antonin Baudry, parce que c'est un film qu'on n'a jamais vu dans le cinéma français depuis des années. Je ne sais même pas s'il y a déjà eu un film de sous-marin. Vous, le cinéma que vous regardez et qui vous regarde, il est plutôt du côté des États-Unis ?
Non, il est plutôt asiatique, moi.
Ah.
J'adore les films asiatiques, mais j'aime beaucoup les films français. En fait oui, c'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de nationalité. C'est pas très pertinent la nationalité.
Il y a quand même des différences entre certains cinémas français et puis certains cinémas américains.
Moi j'adore le cinéma français d'auteur, j'adore les comédies, j'adore les drames psychologiques, j'adore les films d'action. J'aime bien tout. C'est pas ça en fait. C'est quand un film me montre quelque chose de vrai, de puissant, de drôle. Bah, je suis comme tout le monde, j'aime ça. J'aime bien découvrir des mondes, j'aime bien comprendre comment ça marche, j'aime bien quand il y a un vrai travail derrière. Je crois que je suis comme tout le monde.
Ouais. Thomas Dujol?
Ouais, non, bah, bah oui, c'est pareil, non, mais c'est vrai qu'on en revient un peu à la question des cases. On voudrait que, Antonin, avec tout ce qu'il vient d'expliquer sur son film, qui vous sorte, qu'il a que des références ultra pointues et psychologiques et, au final,
pas forcément du cinéma américain, hein, je pense.
Non, non, mais.
De l'Octobre Rouge,
Oui. Bon, après, je pense qu'il a d'autres inspirations. Voilà. Ouais. Une fois qu'il aura fini ce film, il aura envie, il va pas refaire un autre film sur les sous-marins.
Non, il a le projet d'une comédie musicale.
Que sais-je. En même temps, je veux pas parler pour toi, peut-être.
Non, mais je crois que t'as raison, je vais pas refaire un film de sous-marins.
Ça ne vous le permettra pas.
Non, mais je pense que, voilà, on a tous des inspirations. C'est comme moi, voilà, je fais une comédie, mais je passe mon temps à la maison à regarder des polars. Et c'est pas pour autant que je suis pas ouvert à tout un tas de choses. Et effectivement, quand je parle du cinéma asiatique, et les polars asiatiques sont c'est du haut niveau. Quoi.
Donc, super chorégraphie en plus.
Voilà.
Le Chant du Loup, sorti en salle mercredi prochain, comme Black Snake. Vous restez avec nous, c'est la dernière partie du nouveau rendez-vous, première partie, avec Soro Solo, la chronique.
Vous pourriez mettre un disque ?
Oui.
Rendez-vous ?
Qu'est-ce que vous voulez ?
Je vais demander des nouvelles de celui-là.
Alors ce soir, Soro Solo, vous nous emmenez sur la scène musicale de Guinée-Conakry avec Souleymane Bangoura. Qui est ce Souleymane Bangoura ?
Ben Souleymane Bangoura, bon, comme on l'a dit, c'est un Guinéen. Et sa particularité, c'est que depuis que la radio publique Radio France Internationale a créé le prix des découvertes, qui est un concours musical en 1981, il n'y a eu que deux Guinéens qui l'ont remporté. Une femme d'abord en 2011, c'est Sia Tolno, et en 2016, Souleymane Bangoura. Il se trouve que Souleymane Bangoura, quand il était gamin, lui rêvait comme beaucoup de petits Africains, il voulait devenir le plus grand footballeur, le Pelé de Guinée-Conakry. Mais en même temps, il était attiré par la chanson parce qu'à la maison, il y avait beaucoup de musique. Sa mère qui avait séjourné aux États-Unis avait ramené des cassettes et des CD, etc. Et donc, à la maison, il écoutait genre R. Kelly ou l'anglais Craig David. Et puis, il mémorisait ça assez facilement. Et dans le quartier, il chantait tout ça à tue-tête dans un anglais tordu, mais tout le monde appréciait son chant. Et quand il était sur le stade à s'entraîner avec les camarades, il chantait et des chansons sud-africaines comme les Salif Keita, les Mori Kanté, les Bembe Ajaz, etc. Puis un jour, un ami de son grand frère décide de monter un groupe. Il dit, ah, le petit là, il a une très belle voix. On va le prendre dans notre groupe pour monter notre groupe de rock et de rap et qu'ils ont appelé les micro-méga. C'est une métaphore pour dire nous sommes des petits microbes aujourd'hui, mais nous deviendrons des grands.
Méga stars.
Et c'est comme ça que je m'en ai devenu musicien.
Mais alors, à quel moment il est devenu Soul Bang, puisqu'il a tout rétréci dans son nom pour redevenir la méga star.
Exactement. C'est que quand il a commencé à se faire connaître au quartier, il faut rappeler une vieille tradition de la Guinée-Conakry, qu'on tient du premier président Sékou Touré, qui organisait sur toute l'étendue du territoire national des concours culturels qu'on appelait la semaine des arts et de la culture. Donc, à Conakry, les jeunes ont repris cette pratique des concours intercommunaux, et à l'intérieur, Souleymane est devenu une vraie star. Et c'est là qu'il s'est dit, maintenant que notre groupe de micro-méga fonctionne très bien, puisqu'on aura fait des trophées dans les quartiers, il va s'appeler Solbeng. Et cet apprentissage dans les quartiers, il a aussi travaillé cette voie-là avec un ancien, qui est un guitariste et qui est également un chanteur d'un des grands groupes qui était connu en Conakry, et qui s'appelle Kemo Kouyaté, qui l'a aidé à travailler sa voix. Mais pour s'ouvrir sur d'autres horizons, il a partagé la scène avec d'autres Guinéens, comme Banlieusart, Yoriken ou Takana Zion. Mais il s'est dit, il y a l'Afrique aussi, allons voir dehors. Il va retrouver le Nigérian Two-Face ou le Français Dizzy de la Paix. Et c'est l'ensemble de cette expérience qui lui a certainement permis de remporter le concours Découverte RFI en 2016, et depuis, il joue dans la Cour des Grands.
Ça, c'est un extrait de Yelena, son nouveau CD sorti en janvier dernier. Il est produit par Sony Music Afrique. Et c'est une chanson qui parle de quoi ?
Qui parle de sa mère. Il chante, il rend hommage à sa mère. Je vois, je lis dans les yeux de l'homme, mais pourquoi sa mère ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Parce que dans le mandingue, il y a quelque chose de particulier chez les artistes. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est écrit dans toutes les paroles saintes. Et quand un artiste devient reconnu sur la place publique, il dédie une chanson à sa mère. D'abord parce que c'est la mère qui nous porte pendant 9 mois tout seul, même si le père y a participé, mais c'est la mère qui nous porte tout seul pendant 9 mois. Ensuite, dans nos sociétés, l'essentiel de l'éducation de l'enfant, c'est vraiment la femme qui l'assure. Et donc, les artistes estiment qu'on doit leur rendre en permanence un hommage, et à travers la mère, un hommage à toutes les femmes du monde.
Merci Soro Solo, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Afrique en solo, la chronique. Tout de suite, on se quitte pour cette première heure du NRV avec un groupe culte de l'indie pop américaine, Broken Bells. Broken Bells sur France Inter, une programmation de Jean-Baptiste Audibert. Le NRV première partie, vous l'avez compris, c'est fini. Mais on se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
Je n'oublie pas le harcèlement ciblé et en meute. Je n'oublie pas les photomontages à caractère pornographique. Je n'oublie pas tout ça.
Cyberharcèlement, fini de rire. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.